Chapitre 19. Du côté des vivants. Que vers un cœur brisé, nul autre ne se dirige sans le haut privilège d'avoir lui-même aussi souffert. Emily Dickinson. Le soir tombait doucement. En attendant la nuit, le soleil déversait ses derniers rayons avec la flamboyance d'un artificier ménageant ses effets pyrotechniques. La forêt prenait feu. Au premier plan, le tourbillon de flammes vives des érables, des frênes et des bouleaux, les reflets d'or des mélèzes, le feu des tilleuls. Puis le lustre mordoré des hêtres, le sang noir des sumacs et des chênes rouges d'Amérique, le brasiment cramoisi des sorbiers. Plus loin, la muraille verte des sapins, surplombée par la masse minérale et anguleuse de la roche. À Greenfield, Gabriel avait fait le plein d'essence, réglé le niveau d'huile et trouvé une nouvelle roue de secours. Lorsqu'Alice l'avait rejoint au garage, elle lui avait fait part des dernières informations de Seymour sur l'origine du Glock et sur son Audi que l'on avait retrouvé au pont de l'Archevêché. D'instinct, elle avait décidé de ne pas lui parler du corps étranger implanté sous sa peau. Elle préférait attendre d'y voir plus clair avant de lui faire part de cette nouvelle donnée invraisemblable. Ils avaient repris la route, mais au niveau de Brattleboro, un camion-citerne rempli de carburant s'était renversé sur la chaussée. L'essence s'était répandue partout, obligeant les pompiers et la police à fermer l'Interstate 91 et à mettre en place un périmètre de sécurité pour éviter tout risque d'incendie. Contrainte de quitter les grandes voies de circulation au profit des routes secondaires, la Shelby avait ralenti son allure. Si, au départ, les deux flics avaient pesté contre ce coup du sort, ils s'étaient peu à peu laissés alanguir par la quiétude des lieux qu'ils traversaient. Ils s'étaient branchés sur une station de radio locale qui enchaînait les bons standards. American Pie de Don McLean, Just for Today de George Harrison, Heart of Gold de Neil Young. Sur le bord de la route, ils avaient même acheté à un producteur local du cidre et des donuts à la cannelle. Pendant près d'une heure, ils mirent leur enquête entre parenthèses. Le paysage était agréable, ponctué de sentiers, de ponts couverts, de points de vue panoramiques et de ruisseaux de montagne. Le plus souvent vallonné, le relief s'adoucissait parfois sur plusieurs kilomètres. La chaussée prenait alors l'allure d'une route de campagne, le long de laquelle se succédaient des bourgades pittoresques, des fermes intemporelles et de vastes pâturages où paissaient des vaches laitières. Pendant un long moment, Alice se laissa bercer par le ronronnement de la voiture. Le décor lui rappelait ses vacances en Normandie, lorsqu'elle était plus jeune. Le temps s'était figé. Chaque fois qu'ils traversaient un village, ils avaient cette impression de revenir 100 ans en arrière, comme s'ils parcouraient une carte postale de la Nouvelle-Angleterre illustrée de vieux hangars agricoles, de laiteries aux toits mansardés et de feuillages flamboyants. Le charme se rompit lorsqu'Alice ouvrit la boîte à gants pour récupérer son holster. Lors de ses premières années dans la police, elle se moquait de ses collègues plus âgés qui portaient leur arme même lorsqu'ils n'étaient pas en service. Mais, le temps passant, elle était devenue comme eux. Elle avait besoin de sentir le poids du flingue contre sa poitrine pour être pleinement rassurée, en parfait accord avec elle-même. Le pistolet était là où elle l'avait laissé, sanglé dans son étui en cuir, mais, à côté, se trouvait un jouet d'enfant. Une voiture en métal à la carrosserie blanche rehaussée de bandes bleues. La réplique exacte de la Mustang Shelby dans laquelle il roulait. Qu'est-ce que c'est ? Gabriel jeta un coup d'œil au jouet.
Un gadget qui a dû amuser Kenny, je présume.
Il ne se trouvait pas là tout à l'heure. Gabriel haussa les épaules.
Vous avez dû mal regarder ?
Je suis certaine que la boîte à gants était vide lorsque j'y ai déposé mon arme, martela la jeune femme.
« Quelle importance » s'agaça-t-il.
« Je croyais qu'on se disait tout. » Kane soupira.
« Ok, c'est le cousin de Barbie qui me l'a donné. Un type très sympa d'ailleurs. Il collectionne les véhicules miniatures Hot Wheels. Il en a au moins 300. C'est dingue, non ?»«
C'est ça. Dingue !» répéta-t-elle sans le quitter des yeux. Il manifesta son exaspération en haussant le ton.
« Quoi ?» Ce type a voulu me faire plaisir en m'offrant cette bagnole. Je l'ai prise pour ne pas le vexer, point. C'était un simple geste de politesse. Ce n'est peut-être pas nécessaire qu'on passe la soirée là-dessus.
Alice explosa.
Arrêtez de me prendre pour une idiote. Vous voulez me faire avaler que vous avez sympathisé avec ce bouseux au point qu'il vous offre une voiture de sa collection? Et puis il y a encore le prix sur l'emballage. »
Nerveux, Gabriel la dévisagea avec hargne avant d'allumer la clope qu'il avait coincée derrière son oreille. Il tira plusieurs bouffées qui parfumèrent l'habitacle. Incommodée par la fumée, Alice baissa sa vitre. Elle ne quittait toujours pas des yeux son partenaire, scrutant ses iris sombres, ses traits déformés par la colère, espérant saisir une vérité, percer un mystère. Et tout à coup, l'évidence s'imposa. « Vous avez un fils, » murmura-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même. Il se figea. Le silence s'installa. Elle insista. « C'est pour lui que vous avez acheté ce jouet. » Il tourna la tête dans sa direction. Son regard noir brillait comme du pétrole. Alice comprit qu'elle avançait en terrain miné.
« C'est vrai, » admit-il en tirant sur sa cigarette. « J'ai un petit garçon. Je voulais simplement lui faire un cadeau. C'est interdit ?»
Retenue par la pudeur, Alice n'était plus très à l'aise, ni très sûre de vouloir continuer cette conversation. Malgré tout, elle demanda d'une voix douce. « Comment s'appelle-t-il ? » Gabriel monta le son de la radio et secoua la tête. Il n'avait pas prévu cette intrusion intempestive dans son intimité.
« Je crois qu'on a d'autres problèmes à régler, là, Schaeffer. »
Un masque de tristesse tomba sur son visage. Il cligna plusieurs fois des yeux et finit par lâcher.
« Il s'appelle Théo. Il a 6 ans. »
À l'intonation de sa voix, Alice comprit que le sujet était particulièrement douloureux. Touchée, elle baissa le son du poste et tenta une parole d'apaisement. « C'est une belle petite voiture, » dit-elle en désignant la Shelby. « Ça lui fera plaisir ?» Sans ménagement, Kane lui arracha le jouet des mains et le balança par la fenêtre.
« Ça ne sert à rien, de toute façon je ne le vois jamais. »« Gabriel, non !»
Elle agrippa le volant pour le forcer à s'arrêter. Excédé, il freina brusquement, se rangea sur le bas-côté et bondit hors de la voiture. Dans le rétroviseur, Alice le regarda s'éloigner. Il se trouvait à présent sur une route panoramique étroite qui serpentait vers la vallée. Elle vit Gabriel s'asseoir sur une saillie rocheuse qui s'avançait dans le vide, comme un promenoir à ciel ouvert. Il termina sa cigarette et en alluma une nouvelle dans la foulée. Alice sortit de la voiture, récupéra le modèle réduit, puis s'approcha de Gabriel. « Je suis désolée, » dit-elle en le rejoignant sur la roche.
« Ne restez pas là, c'est dangereux. »«
Si c'est dangereux pour moi, c'est dangereux pour vous. » Elle se pencha en avant et aperçut un lac en contrebas. La palette éphémère des couleurs automnales se reflétait dans le point d'eau avec intensité. « Pourquoi vous ne le voyez pas plus souvent ?» Il eut un geste évasif.
« Il vit à Londres avec sa mère. C'est une longue histoire. »
Elle lui piqua une cigarette qu'elle eut du mal à allumer à cause du vent. Il lui tendit la sienne et au moment où elle s'y attendait le moins, déballa ce qu'il avait sur le cœur.
« Je n'ai pas toujours travaillé au FBI. Avant de passer le concours d'admission du bureau, j'ai été flic de terrain à Chicago. »
Il plissa les yeux, laissant les souvenirs remonter à la surface.
« C'est la ville où je suis né, et c'est là que j'ai rencontré ma femme. Nous avons grandi tous les deux dans l'Ukrainian Village, le quartier des immigrants d'Europe de l'Est, un endroit plutôt tranquille situé au nord-ouest du Loop. »
« Vous travaillez à la section homicide ?»«
Oui. Mais celle des quartiers sud, qui couvre les endroits les plus chauds de la ville, le district d'Englewood, celui de New City. »
Il tira une longue bouffée de tabac avant de poursuivre.
Des sales coins gangrénés par les gangs, abandonnés à la peur et au désespoir, où la police ne peut plus grand-chose. Des territoires entiers sous la coupe de petits zonards qui se prennent pour Scarface et font régner la terreur à coups de pistolets mitrailleurs.
Un passé pas si lointain lui revenait en mémoire. Un passé qu'il aurait voulu garder à distance, mais dans lequel il était malgré lui en train de replonger.
« Vous n'avez jamais eu l'impression que nous, les flics, nous travaillons pour les morts ? Si on réfléchit bien, ce sont eux nos vrais clients. C'est à eux qu'on doit rendre des comptes. Eux qui viennent hanter nos nuits lorsqu'on ne trouve pas leur assassin.
C'est ce que me reprochait souvent ma femme. » Les gens avec lesquels tu passes le plus de temps, ce sont les morts. Tu n'es jamais du côté des vivants. »
Elle n'avait pas tort, au fond.
Alice interrompit Gabriel avant la fin de son monologue.
« C'est faux. Au contraire, on travaille pour leur famille, pour les gens qui les aimaient, pour leur permettre de faire leur deuil, pour rendre la justice, faire en sorte que les tueurs ne récidivent pas. » Il eut une moue dubitative et poursuivit son récit.
« Un jour, j'ai décidé d'aider vraiment les vivants. À Englewood, j'étais quotidiennement en contact avec les membres d'une association de médiateurs. Des gens hétéroclites, pour la plupart des travailleurs sociaux et d'anciens repris de justice issus du quartier, qui avaient uni leurs forces pour faire ce dont nous, les représentants de la loi, étions devenus incapables. Mettre de l'huile dans les rouages, éviter les conflits, apaiser les tensions, et surtout sauver ceux qui pouvaient encore l'être.
Les plus jeunes ?
Surtout ceux et celles qui n'étaient pas encore dévastés par la dope. Parfois, les bénévoles n'hésitaient pas à agir en marge de la légalité. Plusieurs fois, je les ai aidés à exfiltrer des jeunes prostituées du quartier en leur fournissant de faux papiers, un peu d'argent confisqué lors des interpellations de dealers, un billet de train pour la côte ouest, une adresse de logement, la promesse d'un job.
Comme Paul, pensa malgré elle Alice. La forêt se reflétait dans les yeux de Gabriel, donnant à son regard une intensité inquiétante.
Persuadé de faire le bien, je n'avais pas mesuré à quoi je m'attaquais. J'avais décidé de ne pas tenir compte des avertissements ou des menaces que je recevais. J'aurais dû, car les proxénètes et les barons de la drogue ne plaisantent pas quand on s'attaque à leurs outils de travail.
Il continua son récit, l'entrecoupant de silence.
En janvier 2009, la petite sœur de ma femme avait prévu de partir en week-end au ski avec ses copines pour fêter son anniversaire. Elle nous avait demandé de lui prêter notre 4x4, ce que nous avions accepté. Debout derrière la véranda, je me revois encore en train de lui faire un signe de la main. « Sois prudente, Johan, ne fais pas la maligne sur les pistes noires !» Ce soir-là, elle portait un bonnet avec un pompon. Ses joues étaient rosies par le froid. Elle avait 18 ans. Elle était pleine de vie. Elle s'est installée au volant du tout-terrain, a tourné la clé de contact et... La voiture a explosé juste devant nos yeux. Les salopards d'Englewood n'avaient pas hésité à piéger mon véhicule.
Gabriel prit le temps d'allumer une nouvelle cigarette avec le mégot de la précédente et reprit.
Dès le lendemain de l'enterrement de sa sœur, ma femme a quitté la maison avec notre fils. Elle s'est installée à Londres, où vivait une partie de sa famille. Puis tout est allé très vite. Elle a demandé le divorce, et je me suis fait laminer par les pitbulls qu'elle avait engagés pour la défendre. Ils m'ont accusé d'être violent, d'être alcoolique, de fréquenter des prostituées. Ils ont produit des témoignages trafiqués et des SMS sortis de leur contexte. Je n'ai pas su riposter. Elle a obtenu la garde exclusive de Théo.
Il tira une dernière bouffée de sa cigarette et l'écrasa contre la roche.
Je n'avais le droit de voir mon fils que 2 fois par an. Alors un jour, j'ai craqué. J'ai rejoint ma femme en Angleterre, j'ai essayé de la raisonner, mais elle s'est braquée. Ses avocats se sont déchaînés et ont obtenu une injonction d'éloignement qui m'interdit à présent de voir Théo.
Un voile de résignation passa dans son regard. La nuit tombait. Le vent s'était levé. Et il commençait à faire froid. Émue, Alice lui posa la main sur l'avant-bras, quand la sonnerie du téléphone creva soudainement leur bulle d'intimité. Ils échangèrent un regard, conscients que la porte entrouverte de ce jardin secret était sur le point de se refermer. Elle décrocha.
« Oui, c'est Moore ?»
répondit-elle en activant le haut-parleur.
« J'ai trouvé l'usine sucrière, je suis sur place. » Putain, c'est flippant ton truc, complètement isolé. C'est ici qu'ils ont tourné Evil Dead, non?
Décris-moi ce que tu vois.
Ça ressemble à l'antichambre de l'enfer.
N'en fais pas trop quand même.
En plus, il tombe des cordes et je n'ai pas pris de parapluie.
On s'en fout, Seymour. Tu as la torche, ta pince et les tubes fluo?
Ouais, j'ai tout mis dans mon sac.
Amplifié par le haut-parleur, la voix crachotante du flic sortait du téléphone pour résonner dans la vallée, ricochant sur les parois des montagnes.
D'après ce que m'a dit Castelli, ça fait plus de 30 ans que l'usine est à l'abandon. Je suis dans le bâtiment principal, là. Il est à moitié effondré. Tout est pris dans la rouille avec des broussailles qui montent jusqu'à hauteur d'homme.
Alice ferma les yeux pour se remémorer avec précision la topographie des lieux telle que son père la lui avait décrite.
D'accord. Sors par derrière et cherche une zone de stockage. Un bâtiment qui ressemblerait à un silo.
Quelques secondes s'écoulèrent avant que Seymour reprenne la parole.
Ok, je vois une sorte de réservoir haut et étroit, bouffé par le lierre. On dirait la bite du géant vert.
Alice ne releva pas la plaisanterie douteuse.
Contourne la tour jusqu'à ce que tu trouves une série de 3 puits en pierre.
Nouvelle attente.
Ça y est, je les vois. Ils sont grillagés.
Alice sentait les battements de son cœur s'accélérer.
Commence par celui du milieu. Tu peux retirer la grille ?
Attends, je branche mon kit main libre. C'est bon, la grille n'est pas soudée. En revanche, il y a une trappe en fer forgé en dessous.
Tu peux la soulever ?
Bordel, ça pèse une tonne ! Ça y est, ça s'ouvre.
La jeune flic respira profondément.
Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur ?
Rien !
Elle s'énerva.
Braque ta torche, putain !
C'est ce que je fais, Alice ! Y'a rien, je te dis !
Allume un tube fluo !
Elle l'entendit grommeler à l'autre bout de la ligne.
Comment ça marche, ces trucs ?
Exaspérée, Alice haussa le ton.
Tu prends le bâton lumineux, tu le plies en deux, tu le secoues pour l'activer et tu le balances au fond du trou.
Quelques secondes s'écoulèrent encore. Puis Seymour confirma.
Le puits est vide et le passage est complètement asséché.
Putain, c'est pas vrai.
Qui étais-je censé trouver ?
Continua Seymour. Alice se prit la tête entre les mains.
Le cadavre de Vaughn.
Tu es en plein délire.
Regarde dans les deux autres puits,
ordonna-t-elle.
Les grilles sont rouillées et soudées. Personne n'a dû les ouvrir depuis des lustres.
Fais sauter la grille avec la pince.
Non, Alice, je fais rien sauter du tout. J'en ai ma claque de tes conneries. Je rentre à Paris.
Impuissante, en pleine forêt, à plus de 6000 km de cette vieille usine Moselane, Alice serra les poings de rage. Seymour se trompait. Il y avait un cadavre dans cette usine. Elle en était certaine. Elle s'apprêtait à raccrocher, lorsqu'à l'autre bout du fil, un râlement et une pluie d'injures lui déchirèrent les tympans.
« Seymour ? »
s'alarma-t-elle. Un silence. Elle échangea un regard inquiet avec Gabriel, qui, même s'il ne comprenait pas tout ce que disaient les deux Français, sentait la tension monter.
« Seymour, qu'est-ce qui se passe ? »
cria-t-elle dans le combiné. Il y eut une longue pause, pendant laquelle ils entendirent une succession de grincements métalliques. Puis Seymour dit enfin
« Bordel de merde ! T'avais raison et il y a bien un cadavre !»
Alice ferma les yeux comme pour remercier le ciel.
« Mais il n'est pas dans le puits !»
reprit le flic. « Pas dans le puits ?»«
Il y a un corps dans la cabine d'une vieille pelleteuse !»
Blême, Alice demanda dans un souffle « C'est Vaughn ?»«
Non, c'est une jeune femme. Elle est ligotée et bâillonnée. Attends, avec une paire de bas, putain ! Elle a été étranglée avec une paire de bas !»
Alice essaya de garder son sang-froid.
« Dans quel état de décomposition est le cadavre ?»«
Entre la nuit et cette putain de flotte, je vois pas grand-chose. À mon avis, elle est morte depuis quelques jours, tout au plus. »«
Vous pourriez m'expliquer ce qu'il se passe ?»
Alice lui résuma rapidement la situation en anglais. Immédiatement, une question s'échappa des lèvres de l'agent fédéral.
« Demandez-lui quelle est la couleur du sous-vêtement. D'après les témoignages, le jour de son assassinat, Elizabeth Hardy portait des bas de couleur rose. « Quelle est la couleur de la paire de bas, Seymour ?» demanda Alice.
« Impossible à dire, il fait trop sombre. Je vais devoir te laisser, Alice. Il faut que je prévienne les flics du coin. »«
Attends, Seymour ! La couleur des bas, s'il te plaît !»
hurla-t-elle.
« Rouge, je crois ? Non, rose, plutôt. »
nuança-t-il avant de raccrocher. Alice et Gabriel se regardèrent, pétrifiés. Le cauchemar continuait.